tableau technique là. Hop, voilà. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de l'Éternel, de Dieu avec vous. Et j'aimerais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Paris lundi soir? Non? Attendez, alors si je vous montre cette photo. Non? Ah, ouais, voilà, c'est ça. Le ballon d'or, la cérémonie de remise du ballon d'or. Et c'est Lionel Messi, l'Argentin, le Barcelonais, là, qui a gagné son 6e ballon d'or. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, les footeux ici doivent connaître. Hein, c'est les journalistes sportifs qui, en fait, sont consultés et qui votent, qui choisissent, qui font un classement. Et puis ensuite, celui qui est tout en haut du classement, qui est considéré comme le meilleur joueur de foot pendant l'année écoulée, reçoit un trophée magnifique, n'est-ce pas? Ballon d'or. Dans notre quotidien, on est confronté à des questions de classement presque tous les jours. Moi, je sais que travaillant à l'université, on entend régulièrement parler des classements d'université. Comment est-ce que notre université se classe par rapport aux autres, les meilleures universités dans le monde, en France, etc. Quand on fait les courses, maintenant, on va regarder le Nutri-Score, on va regarder aussi quel est le classement des produits par rapport aux biens qu'il peut apporter aussi à notre santé. Quand on passe un concours, quand on fait du sport, les classements, c'est important. Et souvent, c'est la première place qu'on retient. Dans les universités, c'est Harvard. Ouais, et puis après, derrière, on oublie parfois. Et ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles ou les allumer, pour ceux d'entre vous qui l'ont sur votre téléphone. Et on ne va pas lire un passage qui parle de foot, il n'y en a pas. Mais on va lire un passage qui parle d'un classement. Un classement très court où, en fait, il n'y a que deux prétendants. Dieu et nous. Dieu et moi. Et ce texte nous pose la question de savoir qui doit être en haut du classement. C'est un livre qui se trouve dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, parmi les petits prophètes. Ce n'est pas forcément des textes qu'on a l'habitude de lire. Et c'est le prophète Agée que nous allons lire ensemble, l'ensemble du chapitre 1 du livre du prophète Agée. Agée a vécu lorsque le peuple est revenu d'exil. Les péchés du peuple ont conduit Dieu à exercer un jugement. Ce jugement, c'était exiler le peuple du royaume de Juda à Babylone. Cet exil a pris fin et une petite partie des Juifs sont revenus habiter à Jérusalem. Et c'est à ce moment-là, à peu près 15 ans, 16 ans après le retour à Jérusalem, que Agée est appelé par l'Éternel, par le Seigneur, à parler au peuple. Et c'est intéressant parce que c'est un texte qu'on peut dater au jour près. La parole de Dieu que Agée a apportée, elle a été apportée le 29 août 520 avant Jésus-Christ, dans notre calendrier. C'est assez intéressant de se dire que voilà, il y avait une date bien précise qu'on peut dater. On va lire ensemble ce texte. Agée, chapitre 1. La deuxième année du roi de Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agée. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti ». Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agée. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits, c'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel leur Dieu leur avait envoyé, et le peuple révéra l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous », l'Éternel le déclare. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Le prophète Agé s'adresse au peuple, poussé par l'Esprit de Dieu qui l'inspire. Il va voir les deux leaders, le leader politique, le gouverneur, le leader religieux, le grand prêtre. Il va aussi voir l'ensemble du peuple pour leur dire ce message simple et essentiel de la part de Dieu. La place de Dieu, c'est d'être en haut du classement, devant vos propres préoccupations. Si on reprend le début du texte, on voit que lorsque Dieu s'adresse au peuple, il y a un tableau avec assez triste, plutôt sombre, avec deux parties. Et on peut déjà noter, la première partie, ce sont ces deux reproches qui reviennent dans la bouche du prophète Agé qui parle au nom de l'Éternel. Le temple est en ruine, alors que vos maisons sont confortablement aménagées. Et dans cette traduction-là, on utilise le mot « temple », mais le texte hébreu utilise le mot « maison de l'Éternel ». La maison de l'Éternel est en ruine et vos maisons sont bien aménagées, bien confortables. Vous dites que le timing n'est pas bon, le temps n'est pas encore venu de reconstruire, mais pour vos maisons, il n'y a pas de problème, vous avez le temps, vous prenez le temps. La deuxième partie de ce tableau, c'est une description de ce que vivent, qui apparaît ici en rouge, de ce que vivent les habitants de Jérusalem. Une vie qui est marquée par le découragement. On travaille beaucoup, mais en fait, on ne récolte pas vraiment le fruit de notre travail. Même les actes simples de la vie, manger, boire, s'habiller, perdent leur sens puisqu'on n'arrive pas à être rassasié. Il y a une insatisfaction dans la vie des habitants de Jérusalem, des frustrations, du découragement, une perte de sens. Et Dieu poursuit en attirant, à deux reprises, on a cette phrase, « Réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Réfléchissez bien à vos chemins, dit le texte hébreu. » Et quand on arrive à la fin de ce qu'affirme le prophète Agé au nom de Dieu, on trouve la raison que ces deux parties du tableau, le temple en ruine et la vie de frustration, la vie difficile du peuple, sont liées. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Parce que mon temple est en ruine. La situation de vie difficile et la ruine du temple sont connectées. Les sécheresses, la difficulté de la vie arrivent parce que le temple est délaissé. Et là aussi, le texte hébreu est intéressant parce que c'est le même mot en hébreu pour dire le désert, la sécheresse, et pour dire la ruine. Et on a vraiment une mise en parallèle des deux. Dieu est en train de dire, c'est le désert dans vos vies parce que vous avez mis le désert dans le temple. Vous l'avez délaissé. Et à cette époque-là, on était dans le régime de l'alliance qui a été faite avec le peuple au mont Sinaï et dans lequel Dieu avait conditionné ses bénédictions. Il a dit, voilà, vous serez bénis si vous êtes fidèles. Et si vous me délaissez, vous en subirez les conséquences. Et on est dans ce constat-là. Le peuple a délaissé Dieu, a délaissé le temple. Le temple, c'est la manifestation concrète du fait que le peuple s'est détourné. Et Dieu leur dit, mais vous êtes en train d'en subir les conséquences. Et ce tableau que Dieu dresse de la situation, il me fait penser au travail de cet homme qui s'appelle Johnny Miller, qui est un photographe, un artiste d'Afrique du Sud, et qui fait un grand projet qui s'appelle Unequal Scenes en anglais, ou paysages inégaux, inéquitables. Et en fait, il travaille en Afrique du Sud avec des drones et il essaye de photographier les endroits où les zones de très grande pauvreté et de très grande richesse, ou la classe moyenne ou la classe supérieure sont quasiment côte à côte. Et c'est vrai qu'on obtient des photographies assez spectaculaires. J'en fais dérouler certaines derrière moi, et où on voit que d'un côté coexiste vraiment une population qui vit dans des maisons bien aménagées, avec les piscines, avec notamment celle-ci qui a fait la couverture de Time Magazine l'année dernière, et on voit de l'autre côté des bidonvilles où c'est insalubre, c'est surpeuplé. Alors l'Afrique du Sud évolue, l'apartheid a disparu, mais les tensions sociales continuent à rester très très fortes, et ces photos, elles illustrent en fait, c'est un peu comme des illustrations, un peu des photos choc qui montrent un peu la coexistence de deux mondes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans nos vies, comment est-ce que nous en sommes, nous, par rapport à cette question, à cette interpellation que Dieu adresse au peuple d'Israël? Est-ce que ce sont nos maisons, sous-entendu, pas que nos maisons, mais nos vies, nos préoccupations qui prennent le dessus, ou est-ce que Dieu est toujours en haut du classement? En tout cas, si lorsque nous prenons de la distance, lorsque Dieu passe au deuxième plan, nous en souffrons. Je disais que le peuple d'Israël était dans une relation d'alliance avec... aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette relation d'alliance. Nous sommes sous le régime de la grâce, comme le dit Paul. Mais ça n'empêche pas que si on ne tourne plus le regard vers Dieu, on en souffre. C'est une évidence. Si on met de côté ce qui est le mieux pour notre vie, nous en subissons aussi les conséquences. Pour les habitants de Jérusalem, ça se manifestait par les ruines de ce temple. Pour nous, ça peut très souvent commencer par un peu ce que disait Amélie dans le message qui a été enregistré. Moi, je m'y retrouve assez bien. C'est la question du temps. On ne trouve plus le temps. Et on sait bien, pour des relations amicales, dans le couple, dans la famille, le temps, c'est souvent le premier ingrédient, prendre du temps. Je regarde mon épouse, n'est-ce pas ? Prendre du temps. C'est souvent une demande aussi. À dire, mais il faut qu'on prenne le temps de discuter, il faut qu'on prenne le temps d'être ensemble. Dans notre relation avec le Seigneur, avec Dieu, c'est pareil. Et souvent, c'est la perte, le fait de ne plus avoir de temps, de courir après le temps, qui entraîne une certaine dégradation. Ça peut être le désir de ne plus s'engager, ça peut être le fait de commencer à avoir une foi qui ne se traduit plus dans notre vie quotidienne. On peut imaginer la liste, vous pouvez la continuer dans votre tête. Mais dans tous les cas, cette vérité nous est affirmée ici. L'état de notre relation avec Dieu se reflète dans notre vie. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai dit qu'on était 15 ans, là le 29 août 520, on est 16 ans après le retour. Et pour savoir comment on en est arrivé là, il faut qu'on revienne 16 ans avant, lorsque les Juifs arrivent à Jérusalem. Et ce qui est génial sur cette période-là, c'est qu'en fait, on a un autre livre de la Bible, le livre d'Esdras, qui nous parle de cette période-là. On va lire quelques versets. Esdras, chapitre 3, versets 1 à 3. Quand arriva le septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Donc là, ils viennent juste de rentrer. Le peuple se rassemble à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Yotsadak, hein, c'est le même Josué qu'il y a dans notre texte, hein, avec ses collègues les prêtres et Zorobabel, toujours le même, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à l'œuvre et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. L'homme de Dieu, malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et du soir. Qu'est-ce qu'on voit là? Vraiment un environnement qui peut être hostile. Hein. Ils avaient peur des populations locales parce qu'ils étaient partis pendant 60-70 ans. Donc, vous imaginez, un endroit qui n'est plus habité, il y a d'autres populations qui arrivent, et les Juifs reviennent. Ça vous fait peut-être penser un peu à ce que les Hébreux ont vécu après la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand les Juifs ont eu l'État d'Israël. Ben, ils reviennent, mais il y a déjà d'autres personnes, ça crée des tensions. Et malgré ça, ils reconstruisent l'autel. Donc l'autel, c'est ce qui était devant le temple, hein, là où on faisait brûler les sacrifices. Donc, une dynamique tout à fait positive et qui se continue lorsqu'on lit au verset 10, les maçons posent les fondations. Donc là, on parle vraiment du temple. Hein, l'autel a été reconstruit. Maintenant, il y a des maçons qui posent les fondations du temple. Les prêtres ont revêtu leurs habits de cérémonie, trompettes en main. Les Lévites, descendants d'Asaph, avec les cymbales, pour louer l'Éternel selon les prescriptions de David, ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel. Un retour extraordinaire. Le peuple qui se lance dans cette reconstruction du temple. Et puis au chapitre 4, toujours dans le livre d'Esdras, « Alors les gens du pays découragèrent les Judéens, les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius. » Donc les 16 ans qui séparent cette reconstruction, pose des fondations du texte qu'on a lu dans le livre du prophète Agée. Après des débuts enthousiastes, c'est la douche froide. Une opposition extérieure. Ces populations ont notamment écrit à l'empereur en calomniant les juifs. L'empereur a dit bon, okay, arrêtez les travaux. Et donc il y a des raisons en fait d'avoir arrêté les travaux hein, du temple. On leur a dit ben, maintenant vous arrêtez les travaux, vous n'avez plus le droit de continuer à construire le temple. Et puis il y avait d'autres choses à faire. Il y avait les cultures, il y avait les maisons, il y avait la vie à continuer. Et d'une certaine manière, les ruines du temple sont devenues un élément du paysage au fil des années. C'est ce temple qui devait être déblayé où les travaux avaient commencé, on s'y habitue. Et je pense que les habitants de Jérusalem ont intériorisé, accepté la situation, intégré que désormais les ruines, le temple est en ruine, c'est comme ça. Quoi. Et si on reprend le texte d'Agée, Dieu leur dit, c'est vous maintenant qui dites que ce n'est pas le moment de reconstruire. C'est plus une opposition extérieure, mais c'est même de vous-même. Vous vous dites, non mais c'est pas le moment, on a d'autres choses à faire. Ce ne sont plus les ennemis qui mettent des obstacles, mais c'est le peuple lui-même. Et je constate qu'on s'habitue facilement à des choses qui ne sont pas comme elles devraient être. Alors c'est un exemple qui va sans doute vous faire sourire, parce que c'est très anodin, mais voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Dans notre salle de bain à la maison, on a une baignoire, et c'est une baignoire qui a un coffrage, donc avec du carrelage dessus. Et comme toute baignoire qui a un coffrage, il faut qu'il y ait une trappe pour pouvoir accéder, hein, ceux qui bricolent un petit peu, là où il y a l'écoulement pour pouvoir faire changer si jamais il y a besoin, etc. Puis on a eu un souci de dégâts des eaux, on a dû accéder, puis ça avait été carrelé. Il y avait pas, enfin, les personnes qui avaient posé le coffrage n'avaient pas prévu de trappe, donc on a dû casser un carreau pour pouvoir accéder au système d'écoulement sous la baignoire. Et donc, on arrive à avoir un trou, voilà, hein, il est là, c'est très moche, hein, c'est moche. Et c'est 8 ans que c'est comme ça. Alors au début, l'ancien pasteur Olivier, vous vous rappelez, ceux qui étaient à l'église là, qui était bricoleur, il nous avait fait une petite plaque de contreplaqué qui pouvait normalement juste rentrer, histoire de cacher la misère avant qu'on répare correctement. Et c'est très gentil, mais on n'a jamais pris le temps en fait de mettre en place ça correctement. Au début, on s'énervait, on disait « Ah non, mais c'est horrible, c'est moche, faut vraiment faire quelque chose. Allez, la semaine prochaine, on prend une heure, on va faire ça. » Puis en fait, non, mais il y a d'autres choses à faire. Et puis, on ne trouve pas le temps. Puis en fait, de fil en aiguille, ben voilà, ça fait 8 ans qu'on a un trou dans le coffrage de la baignoire. Voilà, c'est un petit exemple. Mais je trouve qu'il montre qu'on peut s'habituer à des choses qui sont hideuses, comme ça. On peut s'y habituer. Alors peut-être que d'autres ici auraient fait ça nickel en une semaine, mais voilà. En tout cas, chez nous, ça traîne. Et dans notre vie, pense qu'on peut aussi avoir, comme les Hébreux, quand ils sont revenus d'exil, des grands, une période de grand enthousiasme. On reconstruit l'autel, on est à fond, on loue, on reconstruit les fondations du temple. Et puis, il y a d'autres moments où c'est pas ça, quoi. Il peut y avoir aussi des événements qui font qu'on n'a plus le temps pour être dans l'intimité avec le Seigneur, où on doit diminuer notre engagement. Parfois, c'est subi. Une grosse charge de travail au boulot qui fait que on n'a plus forcément le temps. Une maladie qui nous affaiblit vraiment beaucoup. Parfois, c'est choisi. On a besoin de souffler, on a besoin de prendre du recul. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas prendre du recul, il ne faut pas prendre de pause. Je suis sans doute le moins bien placé ici à l'église pour le dire, puisque ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été ancien pendant 6 ans jusqu'au mois de mars de cette année, et je suis en période sabbatique. Parce que j'ai justement souhaité pouvoir un peu souffler, un peu prendre du recul. Donc, on a le droit, et des fois on le subit, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, ça nous tombe dessus, voilà. Mais ce que le texte ici nous dit, c'est que dans ces situations-là, il faut faire attention. Il faut être vigilant. Faire attention que ces moments de pause, choisis ou subis, ne commencent pas par mettre une certaine distance entre nous et Dieu. Que ce ne soit pas une opportunité pour que d'autres préoccupations, d'autres choses qui peuvent être légitimes, mais prennent le dessus. Attention à ne pas devenir progressivement insensible, parce que le risque existe, et l'exemple du peuple d'Israël au retour d'exil nous le montre. La distance peut se transformer en indifférence, et de fait, Dieu n'a plus la première place qui est la sienne, sa place légitime. Alors si on est dans une telle situation, comment se remettre en route? On se rend compte qu'on est un peu distant par rapport à Dieu, qu'on a peut-être plus les bonnes priorités. Comment est-ce qu'on peut repartir? Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? Et la fin du texte, je trouve, est extraordinaire. Elle ne donne pas de recette magique, mais elle nous montre de manière très simple, en quelques versets, comment Dieu agit pour remettre en route. Qu'est-ce qu'on voit au verset 12? On voit un peuple qui écoute. Ils écoutèrent la voix de l'Éternel. Ils écoutèrent la voix du prophète. Ça peut sembler très bête, mais c'est sans doute la première étape. Écouter. Pas juste entendre, écouter. Écouter ce que dit Dieu, écouter ce que dit Dieu par sa parole. Ne pas tout de suite d'un revers de la main dire « Ah oui, non mais ça je sais, j'ai déjà entendu 50 000 fois ». Non, se laisser interpeller par la parole de Dieu, comme si c'était la première fois aussi que Dieu nous parlait. Se laisser interpeller par le tranchant aussi de la parole, qui parfois peut nous remettre en question, qui souvent nous remet en question. Non seulement ils écoutèrent, mais cette écoute a donné aussi lieu à une attitude intérieure. Nouvelle, à la fin du verset 12, « Le peuple révéra l'Éternel ». Le mot hébreu, c'est « le peuple eut la crainte de l'Éternel ». Alors, le mot de crainte, souvent, dans certaines traductions, on ne l'utilise plus parce que, là, en français, quand on craint quelqu'un, c'est qu'on a peur de lui. Mais le terme hébreu qu'on traduit par « crainte », ce n'est pas la peur de l'Éternel. La crainte, au sens biblique, c'est l'amour de Dieu, aimer Dieu, lui obéir et le respecter. Et le peuple est entré dans cette nouvelle disposition de cœur. Quand on est un peu éloigné de Dieu, quand on entend la parole qui nous est adressée, ce n'est pas toujours cette réaction-là qu'on peut avoir. Parfois, on peut effectivement être blasé et se dire « ça accentue presque notre indifférence. Non mais ça, je l'ai déjà entendu, je le sais, c'est bon. » Ça peut aussi parfois provoquer une certaine indignation. Non, mais de quoi il se mêle le prédicateur, de quoi il se mêle Dieu? Enfin, c'est ma vie, c'est mon problème. Que Dieu nous aide à avoir un cœur réceptif qui débouche sur la crainte de sa personne. La crainte au sens de l'aimer, le respecter, lui obéir. Et on voit au verset suivant, au verset 13, que Dieu répond à cette attitude de cœur, avec cette phrase magnifique « Moi, je suis avec vous ». Quelle parole d'encouragement! Il leur rappelle qu'il est avec eux, il ne leur dit pas « J'étais parti et je reviens vers vous ». Il leur dit, je suis avec vous. C'est vous qui vous étiez éloignés. Moi, je suis avec vous. Et non seulement il encourage le peuple par cette parole en leur rappelant qu'il est avec eux, mais on a cette phrase, il les anime d'un nouveau zèle. La traduction littérale, c'est « il réveille l'esprit de Zorobabel, il réveille l'esprit de Josué, il réveille l'esprit de tout le peuple ». C'est un réveil spirituel que Dieu suscite. En fait, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui remet debout, c'est Dieu qui remet en route, qui enclenche une dynamique. C'est Jean Calvin qui disait que Dieu donne ce qu'il ordonne. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Dieu donne ce qu'il ordonne, c'est-à-dire Dieu ordonne au peuple d'aller reconstruire le temple, mais il leur donne les moyens de le faire. C'est Dieu qui est à l'origine de la remise en route des travaux. Quel changement de situation. Écouter et craindre, c'est ce que doit faire le peuple, c'est le rôle du peuple. Encourager, réveiller l'esprit, c'est l'action de Dieu. Et les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Ça me fait penser à, dans certains films de guerre américains, qui se passent dans des sous-marins, il y a, quand il faut lancer un missile, en fait, on a cette scène-là, où en fait, il faut qu'il y ait deux personnes, parce qu'il y a deux clés différentes, il faut qu'il y ait deux personnes qui puissent, en même temps, activer. S'il n'y en a qu'une, ben, le missile, il part pas. Mais il faut vraiment qu'il y ait une action coordonnée des deux. Ben, il faut... On a notre part à jouer. Dieu répond aussi à cette part-là. C'est que c'est une image, et c'est une image imparfaite, parce que cette image, elle sous-entend qu'on est sur un pied d'égalité entre Dieu et nous. Or, ce n'est pas le cas. On le voit bien dans ce texte. C'est Dieu qui s'adresse via le prophète au peuple. C'est Dieu qui suscite cette prise de conscience du peuple. Et ensuite, c'est Dieu qui réveille. Mais si le peuple n'avait pas écouté, Dieu ne se serait pas imposé, Dieu ne s'impose pas à nous, Dieu ne s'impose pas à toi. Il ne va pas t'obliger à te rapprocher de nouveau de lui. C'est une invitation. Quinze années de travaux qui ont été interrompus pour le temple, 15 années de délai avant que Dieu vienne rappeler au peuple que cette situation n'est pas bonne, pas favorable pour eux. Peut-être que dans votre vie, c'est ce genre de grande période de traversée du désert, ça c'était une réalité ou c'était peut-être une réalité. Mais quelle que soit la distance, quelle que soit la raison, quelle que soit l'ampleur du chemin qu'on a peut-être pris, qui s'est éloigné de cette idée d'avoir Dieu en priorité dans nos vies, Dieu nous rappelle... Et Dieu nous appelle, Dieu t'appelle ce matin à mettre le bon ordre de priorité. C'est Dieu qui a la première place dans nos vies, c'est Dieu qui doit être en haut du classement. Et si tu es dans cette démarche, Dieu te dit ce matin, je suis avec toi. Il est à tes côtés comme il a été aux côtés des habitants de Jérusalem. Dieu avec nous, ça vous fait penser à quoi? Un autre nom, Emmanuel, ouais. Emmanuel, c'est une autre manière en hébreu de dire Emmanuel, Dieu avec nous, l'Éternel avec nous. C'est le nom que le prophète Ésaïe a donné au Messie, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus dont on va célébrer la naissance dans quelques semaines. C'est Dieu, le Fils, qui vient habiter parmi les hommes, qui vient vivre avec nous, qui est remonté auprès du Père, mais qui nous a envoyé son Esprit. Donc aujourd'hui, on peut dire, oui, Dieu est avec nous, parce qu'il nous a donné son Esprit, l'Esprit Saint qui vit en nous. Dieu est avec nous, et Dieu veut réveiller notre esprit. Dieu veut nous animer d'un zèle nouveau, pour nous mettre en mouvement. À nous de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, de nous laisser toucher par sa parole et de répondre comme l'a fait le peuple, avec crainte, en aimant, en respectant et en obéissant à l'Éternel. Je vous invite à la prière. Père, quand je me tourne vers toi, C'est comme si je sortais de l'obscurité pour marcher à la lumière du jour. Tu me fais voir le monde tel qu'il est, et moi-même tel que je suis. Parfois, je suis tellement absorbé par mes problèmes et mes priorités que j'oublie ton amour, ta puissance, ta fidélité. J'oublie que tu règnes, que tu es le Dieu qui transforme même les situations les plus difficiles et qui change le désert en oasis. J'oublie simplement que tu es là et que je t'appartiens. Je sais qu'en te donnant la première place, j'aurai une perspective juste sur les détails. Alors je prie que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je te confie ma journée avec tous ses défis, ses soucis et ses joies. Par ton Saint-Esprit, aide-moi, aide-nous à être renouvelés en nous focalisant sur ta grandeur. Et que nous te retrouvions dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans la louange et dans la reconnaissance. Amen. Dieu est avec nous. C'est le message de Dieu qui a été donné aux habitants de Jérusalem pour les encourager. Dieu avec nous, c'est le message de Noël. Jésus, le Fils, Dieu le Fils qui vient habiter parmi les hommes. Dieu avec nous, c'est aussi le message de Pâques. Dieu le Père qui donne son Fils pour sauver les hommes. On va maintenant, pour nous introduire au temps de Sainte-Cène que l'on va partager, écoutez un chant qui nous parle de ce nom merveilleux d'Emmanuel, Dieu avec nous. Quel beau nom !